Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. 2FM, sur les traces du prophète, Abdelali Mamoun.
Tous les soirs du mois de Ramadan, nous marchons sur les traces du prophète. Bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonsoir Imam Abdelali Mamoun.
Bonsoir Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Ravi d'être avec toi pour commencer cette belle épopée autour de la personne la plus importante de l'humanité, qui a été reconnue par beaucoup d'historiens comme étant le personnage qui a bouleversé le plus l'humanité.
La vie du prophète, ça a un nom?
Oui, As-Sira, on dit As-Sira Nabawiya, c'est-à-dire l'événement de la vie, les événements, le cycle, les cycles qui se succèdent durant la vie de sa naissance jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam, on appelle ça la As-Sira.
Alors à quoi le monde ressemblait tous avant l'avènement du prophète?
Alors, avant l'avènement du prophète Mohammed, nous sommes donc au début de l'ère chrétienne, hein, les premiers siècles, c'est l'Antiquité d'abord, avant le Moyen-Âge, c'est les Romains qui sont en Occident, dominants, et les Perses, on parle des deux grands empires, qui règnent en Orient. Donc ces deux grands empires dirigent une bonne partie du monde entier. Pour les Romains, c'est tout le pourtour méditerranéen du nord au sud, et pour les Perses, c'est toute la partie orientale de l'Asie jusqu'aux portes de la Chine. C'est l'Empire perse qui règne jusqu'à l'Inde. L'Inde était encore indépendant. Au début du Moyen-Âge, c'est-à-dire au début du 6e siècle ou 5e siècle de l'ère chrétienne, il va y avoir un effondrement de l'Empire romain, notamment à cause des invasions goths et wisigoths, notamment le territoire français de ce qu'on appellera plus tard la France va véritablement se construire autour d'un personnage qui s'appelle la Gaule, la Gaule, et d'un personnage qu'on appellera Clovis au début du 6e siècle de l'ère chrétienne. Clovis va être bien entendu succédé par ses enfants Clotaire, etc., Dagobert et tout ça, on connaît toute la dynastie mérovingienne, va régner alors que le prophète est en train de se construire un empire qui va donc influencer tout le monde entier au Moyen-Orient, notamment dans la péninsule arabique, c'est-à-dire au sud du Cham. Le Cham, c'est-à-dire le Levant, comme on dit en français, le Levant qui est à l'époque la Palestine, la Jordanie, la Syrie, le Liban, ça s'appelait à l'époque le Cham. Et donc au sud de cette région-là, dans une région beaucoup plus aride qu'on appelle la péninsule arabique, rien à voir avec l'Arabie Saoudite, hein. On parle véritablement de tout le territoire entouré de mer à part le nord, à part la partie nord. C'est pour ça qu'on parle de péninsule, parce qu'elle est entièrement entourée d'eau, à part la partie nord qui est, elle, collée avec le Cham. Donc cette région-là va être le berceau de l'avènement du dernier des prophètes de Dieu envoyé à l'humanité, et qui s'appelle Mohammed, que la paix et le salut de Dieu soient sur lui.
Et alors, qui sont les Arabes de la Mecque?
Alors, d'abord, les Arabes sont des Adnaniens, c'est-à-dire ce sont des Arabes arabisés, qui sont descendants d'Ismaël, fils de Ibrahim l'Assyrien, puisque Abraham est un Assyrien. Il n'est pas ni arabe, ni hébreu, ni quoi que ce soit. C'est l'ancêtre des Hébreux et des Arabes. Donc à partir de là, on ne peut pas le situer comme étant arabe ou hébreu, etc. Il est Assyrien. Il n'est même pas araméen. Alors que les vrais Araméens, qui sont au moins l'une des tribus descendantes des Araméens, sont les Arabes du Yémen. Ce sont eux qui vont plus tard rejoindre les rangs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour le soutenir. Ils sont au Yémen, alors que le prophète, lui, avec les grandes tribus arabes arabisées, les Adnaniens, hein, occupent la partie centrale de l'Arabie, c'est-à-dire toute la partie est et ouest du centre de l'Arabie. À l'ouest, ce sont les Mudariyin, et à l'est, ce sont les Bani Rabi'a. Hein, alors, les tribus émanantes de Mudar, vous avez les Qays Aylan plus au centre et les Kinaniyin plus à l'ouest, à la, sur les bords de la mer Rouge, c'est-à-dire ce qu'on appelle la région du Hijaz, qui est séparée du centre par une grande chaîne de montagnes qu'on appelle les Sarawat, l'équivalent des Alpes ou de l'Himalaya. Il y avait une grande, il y a toujours, elle est toujours là, hein, elle n'a pas disparu, hein, cette chaîne de montagnes qui sépare la partie ouest, c'est-à-dire le Hijaz, du centre de l'Arabie où vivait la grande tribu des Qays. Les Qays Aylan, on les appelait les rois d'Arabie, Mulouk al-Arab. C'était les tribus les plus puissantes d'Arabie car elles étaient en nombre de guerriers les plus nombreuses. Donc c'est dans ce contexte-là que le prophète va grandir, et notamment en particulier du fait que à l'époque les tribus arabes, notamment celles du nord et même celles du Yémen, sont les vassaux, vont devenir les vassaux de ces deux grands empires qui s'entretuent depuis longtemps, c'est-à-dire l'empire romain ou l'empire byzantin, puisque l'Empire romain en Occident va s'effondrer, et c'est l'Empire byzantin qui va prendre le relais en Orient, dont la capitale va s'appeler Constantinople, hein, du nom de son fondateur, Constantin Ier, qui a vécu au IVe siècle. Donc cet Empire byzantin va continuer à guerroyer, mais de manière très forte, hein, et très violente, contre l'Empire perse, menant chacun parfois des victoires et des défaites. C'est dans ce contexte-là. L'Arabie est à la fois d'un côté ouest, vassal de l'Empire byzantin, et le côté est, c'est-à-dire celle qui se trouve du côté du golfe du Persique, c'est-à-dire proche de l'actuel Iran, qui était la Perse à l'époque, est-elle vassal de l'Empire perse. Et donc, c'est dans ce cadre-là, au nord, c'est-à-dire dans le Cham, que la plupart des batailles ont lieu. C'est-à-dire au Liban, en Palestine, en Jordanie, en Turquie, en Asie mineure, etc. C'est là où se passent les batailles entre les Perses et les Romains. Et au sud, dans ces territoires arides, personne n'ose s'y aventurer parce que ce sont des territoires inhospitaliers. Ils ne sont pas propices à être conquis. Il n'y a pas d'intérêt à venir, on va dire, jouir d'un territoire totalement aride qui ressemble plus à la planète ou à une lune, tellement les montagnes sont noires et arides. Voilà ce qu'est l'Arabie, un territoire volcanique plein de roches et de montagnes très, et en plus je te parle même pas de la chaleur et de la sécheresse qui règne. C'est véritablement inhospitalier. Les Romains ni les Perses ne sont intéressés par ces territoires, à part le Yémen qui est lui relativement agréable à vivre. C'est pour cela qu'on l'appelle l'Arabie heureuse ou the happy Arabie, hein, Arabie. Ou du moins, je sais pas comment ils appellent.
Non, mais j'aime bien the happy Arabie.
Ouais, c'est quand dans les cartes, les anciennes cartes, on parle du Yémen comme étant l'Arabie heureuse. C'est comme ça qu'on l'appelait.
De quoi vivaient les Arabes de la Mecque ?
Alors, d'abord, il faut savoir que dans ce territoire où Sayyidina Ibrahim alayhi salam, parce qu'on parle du prophète Abraham, qui a laissé sa servante Hajar avec son fils Ismaïl, qui le laisse sur ce territoire, c'est un territoire totalement dépourvu de ressources, que ça soit végétal ou animal, il n'y a rien du tout. Et lui-même, il le dit, le Coran le confirme. Inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'a. J'ai laissé ma famille, il dira Ibrahim à son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Créateur, il lui dira, oh mon Dieu, j'ai laissé ma fille auprès de ta demeure, la demeure de la, qui deviendra bientôt la Mecque, dans un endroit aride, où il n'y a ni ressources, ni plantes, ni rien du tout. Il dit donc, Ibrahim, envoie-leur donc des gens qui vont pouvoir s'occuper d'eux et prendre soin d'eux. Effectivement, on connaît l'histoire. Hajar, avec son fils qui sont abandonnés dans ce oued, dans ce oued, c'est-à-dire dans cette vallée au cœur des montagnes de la qui va s'appeler plus tard la Mecque, puisque là pour l'instant il y a rien du tout, il n'y a même pas une seule maison, même pas une tente. Il la laisse là et il laisse son bébé Ismaïl, et à ce moment-là, on connaît l'histoire, je rentre pas trop dans les détails, va jaillir du sol la source de Zamzam. Et au moment où l'eau sort de la terre, elle va s'abreuver, abreuver son enfant et pouvoir enfin allaiter son fils, car son lait de son sein s'est tari. Elle n'a plus de quoi nourrir son enfant. Et les charognards qui volaient au-dessus de ces deux personnages qui étaient Hajar et son fils Ismaïl attendaient leur mort. Et de loin, une caravane des Jorhom va constater qu'il y a des charognards qui planent au-dessus.
Qui tournent
autour de ces deux personnages. Donc ils se disent, il y a quelqu'un là-bas, il faut qu'on fasse un détour vers là-bas. Effectivement, la caravane va se diriger et va trouver Hajar et son fils. Ils vont lui demander de leur accorder de quoi boire. Et là, elle va leur dire je n'accepte que seulement si vous me donnez de la nourriture. Et elle va commencer une transaction commerciale. Elle va donner de l'eau en contrepartie de la nourriture. Ensuite, elle va se mélanger avec cette population qui tout simplement va décider de se désédentariser dans cet endroit. Petit à petit, des tentes, ensuite des maisons vont se construire autour de ce puits qu'on appelle Zamzam. Mais d'autres puits, il faut le savoir, vont être découverts dans cet endroit qu'on appelle Mecca al-Mukarrama, puisque ça n'est pas le seul puits. Hein. Il y a des puits qui existaient à la Mecque, et ça, beaucoup de gens ne savent pas. Vous aviez par exemple Bir Kur Adam, le Bir Rum. Vous aviez un puits qui s'appelle Bir Al-Hajoul, Bir Jubair Ibn Mut'im, le Bir Badar. On parle de 192 puits à la Mecque qui ont été creusés avant l'avènement de l'islam et qui existaient avec le puits de Zamzam. Sauf que le puits de Zamzam, quand Jorhum va se faire chasser par les Khouza'a, une tribu de Khouza'a qui va chasser les Jorhum de la Mecque, eh bien, ils vont décider tout simplement de l'enfouir, c'est-à-dire d'enterrer le puits de Zamzam, et on va plus avoir trace jusqu'à l'avènement du grand-père du prophète, c'est Abdul Muttalib, qui va avoir en rêve un endroit où va jaillir l'eau de son ancêtre Ibrahim alayhi salam et de son fils Ismaïl. Donc Sayyidina, donc Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, va creuser et découvrir tout près de la Kaaba, eh bien, ce puits qui va lui permettre de donner à boire aux habitants et notamment aux pèlerins qui rendaient visite au sanctuaire sacré de la Mecque qu'on appelle Al-Kaaba al-Musharrafa.
Bon, vous avez une question à poser à l'imam Abdelali, on vous donne rendez-vous dans un instant. Allô l'imam, au 01 53 48 3000, toutes vos questions religieuses concernant le ramadan, 01 53 48 3000.
Beur FM, le ramadan, 30 jours avec vous. Retrouvez tous les programmes du ramadan en podcast sur beurfm.net. Et l'appli Beur FM.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robuchon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beur FM.
Et quel plaisir que de vous retrouver pour ce premier jour de mois de Ramadan dans Ramadan & Co. Bonsoir imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ravi d'être avec toi, ravi d'avoir commencé cette émission en révisant mes leçons d'histoire, Philippe, tout à l'heure.
C'est très bien.
avec Clovis, les Mérovingiens, Clotaire, Dagobert, c'est sympa. Ouais,
et bien. C'est que le début. Ouais. Ousmane Timira est avec nous. Bonsoir Ousmane.
Bonsoir, que la paix soit sur vous. Heureux d'être en si bonne compagnie avec vous.
Voilà, et de passer ce mois de Ramadan avec vous, Ousmane. Alors les rendez-vous, on vous les rappellera au cours de la soirée. Première partie de l'émission, c'est Allô l'imam. Donc vous pouvez poser vos questions en direct à l'imam Abdelali Mamoun, hein, toutes vos questions religieuses au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Je rappelle que l'ADEN est en direct tous les soirs et il s'est échauffé la voix toute l'année. Donc autant vous dire, voilà, ce soir c'est nickel. L'imam Abdelali, ce soir, c'est à 18h53 que vous ferez l'ADEN en direct.
Inch'Allah.
01 53 48 3000. Si vous avez vos questions, on les prend dans un instant. Imam Abdelali, quels sont les objectifs du musulman par rapport au Ramadan ?
Alors, le croyant, le musulman, qui est interpellé par Dieu comme étant justement un croyant, puisque Dieu dit dans le Coran « Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam » Il vous a été prescrit le jeûne. Tous les ans, le croyant se remémore cette injonction, cet ordre divin, et donc il a pour objectif trois étapes. La première étape, en implorant Dieu qui lui permettent d'arriver et d'atteindre ce moment sacré, ce moment béni par Allah Azza wa Jal. Par les invocations, il dira « Allahumma ballighna Ramadan »« Allahumma ballighna Ramadan » »« Oh mon Dieu, permets-nous d'atteindre ce moment qui est béni, que tu as décidé de bénir et de combler de ta miséricorde. » Donc c'est la première étape, c'est constamment d'être dans la nostalgie. « Hada istawhish » comme on dit « yashtaq » يشتاق من الشوق الى الى ان يدخل في رمضان وان يعيش رمضان de vivre ce mois béni du Ramadan. Il est dans la nostalgie jusqu'au moment où il est enfin dans ce moment où est-ce qu'il vit le mois béni du Ramadan. Et là passe, on arrive à la deuxième étape, c'est at-tawfiq. Tawfiq, c'est le fait d'être on va dire par la volonté de Dieu, par la prédestinée de Dieu, par le maktou, par le qadar Allah Azza wa Jal, muwaffaq, c'est-à-dire le fait d'être poussé, d'être orienté par et bien guidé par Allah Azza wa Jal pour y accomplir un maximum de bonnes actions et bien entendu d'épargner ce mois de toutes les turpitudes, de toutes de tous les actes détestables et on va dire que Dieu n'apprécie pas. Ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, la troisième et dernière étape, après avoir comblé ce mois de bonne action, il va implorer Allah Azza wa Jal de lui agréer ce mois, de lui accepter d'être satisfait des œuvres qu'il a accomplies pendant. Ça suffit pas de vivre le mois du Ramadan, ça suffit pas de le vivre dans la foi. Il faut le vivre dans la piété. Il faut encore qu'Allah Azza wa Jal accepte cette offrande, parce que c'est une offrande que nous faisons à Allah Azza wa Jal. Nous faisons preuve de générosité du grand généreux, du plus grand généreux qui est Allah subhanahu wa ta'ala, en y accomplissant des bonnes actions. Et donc on essaye d'obtenir d'Allah Azza wa Jal sa satisfaction. An yataqabbala minna, bimana an yataqabbala minna a'malana ba'da ada'iha wa ba'da tawfiqi Allah Azza wa Jal lana bi ada'iha ala ahsani wajhin. Fakama qala alayhi salatu wassalam, man sama ramadan, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec cette caractéristique, avec ce complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire la manière que tu vivras le Ramadan, qu'on appelle en arabe al-hal. Il y a un seul mot pour traduire trois mots en français, qu'on appelle al-maf'oulat, les mansoubat, qu'on appelle aussi les compléments, hein, celles qui viennent après le sujet et le verbe. Eh bien, vous avez une catégorie de compléments circonstanciels qui est soit du temps, soit du lieu, etc. Dharf zaman, dharf makan. On a aussi en arabe al-hal, qui est le complément circonstanciel de manière, c'est-à-dire la manière de vivre le mois du Ramadan. Et comment doit-on le vivre ? Deux manières, comme le dit le hadith du prophète rapporté par le Bukhari selon Abu Huraira, imanan wa ihtisaban. Motivé par la foi, encouragé et boosté par la foi et par l'espoir et par l'envie et par l'espérance d'Allah Azza wa Jal d'obtenir une récompense. Voilà comment le croyant vit ce mois béni du Ramadan. Il est dans cette circonstance de manière halata kawnihi mu'minan wa muhtasiban al-thawab min Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان فالحمد لله بلغنا رمضان. Nous avons atteint la première étape. Enfin, maintenant, أن يوفقنا للعمل الصالح, d'y accomplir les meilleures œuvres possibles. Et enfin, que ces œuvres soient agréées, soient acceptées, hein, comme une offrande que nous donnons à Allah Azza wa Jal pour obtenir de lui sa satisfaction et bien entendu le paradis éternel. Donc le musulman, Philippe, t'aimes bien parler d'action désintéressée. Oui, on est désintéressé de toute récompense terrestre. Voilà ce que vit le croyant quand il est dans l'adoration. Mais il n'est pas désintéressé de la récompense céleste. Il espère la récompense d'Allah Azzawajal le jour de la résurrection. Déjà, de ne pas subir les tourments de ce jour du jugement dernier, ahwal al-qiyama, et essayer de les passer avec facilité. An yuhasaba hisaban yasira, comme dira le Coran, Allah Azzawajal dans le Coran. Et pouvoir ainsi accéder directement à la récompense suprême, les huwa le paradis. Et au-dessus même de cette récompense suprême, il y a le summum de la récompense qui est ru'yatullah, la vue de Dieu. An-nar Allah azza wa jalla bi-wujuhin nadira, c'est-à-dire avec des visages rayonnants de joie et de bonheur, tellement nous sommes heureux de voir la face de Dieu. Voilà, c'est le summum de la jouissance, le jour de la résurrection, plus que les sirènes du paradis, plus que tous les mets, toutes les nourritures, tous les plaisirs charnels que pourra jouir le croyant. Le plus grand plaisir intense qui est incommensurable, c'est la vision et le fait de pouvoir, avec sa face, pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala. Wujuhun yawma'idin nadiratun ila rabbiha nadira. Nadiratun, c'est-à-dire des visages rayonnants, ila rabbiha, vers leur Seigneur, ils regardent. Nadira, avec un va. Et le premier, c'est avec un dad, nadara. Nadarallahu wajha mra'in. Le prophète nous parle quand il dit que Dieu donnera le visage rayonnant et joyeux à celui qui accomplit telle ou telle action. Donc, an-nadara, c'est le fait d'avoir un visage rayonnant de joie et de bonheur pour celui qui aura le plaisir immense, incommensurable de voir la face d'Allah Azza wa Jalla. Donc, voilà les trois étapes. Le fait d'atteindre, le souci, la nostalgie d'atteindre le mois du Ramadan, quand on y est, de faire un maximum de bonnes actions, et enfin, après les avoir accomplies, d'essayer d'obtenir d'Allah sa satisfaction et l'agrément de toutes nos œuvres. Ba'da tawfiqiha. Hada huwa. Voilà le sujet d'introduction.
Les objectifs
du Ramadan, voilà. Du jeûneur par rapport à ce mois béni du Ramadan.
Ousmane Timira.
Oui, je remercie vraiment notre cheikh de nous avoir rappelé ces essentiels. Il n'y a rien à ajouter. Il est vrai que tout cela se réunit dans ce propos coranique qui dit que le jeûne vous a été prescrit comme cela fut prescrit aux gens d'avant vous, la'allakum tattaqoun, en indiquant un objectif. J'en parlerai sans doute tout à l'heure dans ma chronique, afin que vous atteigniez cet état de conscience de Dieu, de crainte révérentielle de Dieu, ce sentiment qui fait que on devient plus humain, plus moral, on est plus respectueux envers les autres, envers soi, envers la nature. Cet état de conscience, de permanence qui nous permet justement d'être des meilleurs êtres humains. L'ensemble de ce que nous vivons dans le Ramadan vise à nous faire atteindre cet état d'esprit, cet état d'âme et cette permanence de la conscience de Dieu en nous. Puisse Dieu donc nous aider à atteindre cela, parce que les rituels ne sont pas des objectifs en soi, bien qu'ils soient obligatoires, mais ils ont pour but de nous faire atteindre un certain état. Et si cet état, nous ne le vivons pas, eh bien, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Donc, puisse Dieu nous aider à atteindre cet état.
Allez, Nadira est avec nous au standard au 01 53 48 3000. Nadira, bonjour et bienvenue.
Oui, bon Ramadan. Salam alaikum, je vous appelle
Nadira.
Salam Abdelali Mahmoud, j'appelle Nadira. Je m'appelle Nadira. Donc, ce que vous dites là en ce moment, ça me. Ouh là là. Ça m'a égayé mon visage.
Eh bien, je suis content pour vous.
Mashallah, et votre émission, je la suis depuis des années. L'année dernière, je vous avais appelé. C'était pour souhaiter un bon ramadan à tous nos frères musulmans, de toutes nos soeurs musulmans sur la planète.
Merci beaucoup. Tout
merci, ma soeur.
L'arhamul walidin, l'arhamouati
Mohamed Jalal. Amin, amin.
Que ce mois de ramadan nous apporte tous un apaisement avec joie, bonheur, santé à tous nos. À tous nos frères, nos sœurs, et puis à vous, à la radio de Kim, au matin jusqu'à Vanessa le soir. Et vous êtes notre famille, et de Fréjus, je vous envoie plein de soleil.
Ah, Machallah, Fréjus,
merci beaucoup.
Hein. Voilà, je vous appelle du Var, là, en ce moment, et là, je suis en train de préparer. Et on mange à 18h35 ce soir.
Ah, mais ça hâte quand même.
Ah, vous mangez avant nous.
Mais il continue, il mange et il continue à nous écouter.
Ah oui, c'est ça.
C'est comme ça que ça se passe.
Bah,
c'est soit nous, soit c'est Racheline, hein. Ils ont le choix. Hein.
Arrêtez.
Tu sais, Moi, je vous écoute du 93, que j'ai, il y a mes filles, elles sont là-bas, j'en fais toutes des gros bisous avec leurs enfants. Et du 93, je vous écoute jusqu'au 83. Et je vous souhaite à tous un bon mois de Ramadan et merci à vous pour l'émission. Et mashallah, et on vous aime. Voilà.
Ben merci, ma sœur. Nous aussi, on vous aime en Dieu. Allah ja'al mahabba fi fillah. Wa barakallahu fikum. Et bien entendu, vous pouvez aussi transmettre tout cela à toute l'équipe de Beurre FM, hein, y compris notre cheikh Othman Timira, et puis bien sûr, notre animateur préféré, Philippe Robichon, et l'animation aussi derrière, chez Faudel qui est aujourd'hui à l'animation.
C'est l'agent Faudil.
L'agent
Faudil, oui.
D'accord.
Oui.
On peut l'appeler
agent de...
Je pensais que c'était les...
Je peux pas
c'était
vous en dire
le
plus.
FBI qu'on appelait les agents.
Ah non,
c'est pas le FBI.
C'est le FBK.
FBK, celui-là.
Allez, Nasser est avec nous. Nasser, bienvenue.
Oui, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
J'ai une question médicale. Voilà, je suis diabétique. De type 2. Et ce matin j'étais bien, j'ai commencé le Ramadan et tout, et puis aux alentours des 13h, 13h30, j'ai ma glycémie qui est fortement descendue jusqu'à 0,40. Et j'ai été obligé de couper mon jeûne. J'aimerais savoir.
Mon frère, non, il n'y a pas de jeûne pour toi, il n'y a pas de jeûne. L'hypoglycémie est super dangereuse, est très dangereuse pour celui qui fait l'objet de ce genre de problème de santé. L'hypoglycémie peut provoquer un coma et qui peut vous faire mourir. Il y a des gens qui, parce que ils n'ont pas été bien encadrés, les gens qui étaient autour d'eux ne savaient pas qu'il avait une hypoglycémie, n'ont pas su quoi faire et ils sont tout simplement morts. Donc l'hypoglycémie est un grave problème qui véritablement vous empêche de jeûner. Vous ne pouvez pas jeûner puisque vous êtes hypoglycémique. J'ai même pas besoin d'appeler le médecin. Là-dessus, c'est clair. Mais je suis sûr que votre médecin, déjà, il vous a interdit de jeûner, n'est-ce pas?
Mon médecin m'a dit qu'il allait me rappeler pour me dire comment je peux adapter, mais parce que... A priori, c'est la glycémie qui me fait descendre beaucoup la...
C'est le traitement qui fait descendre la glycémie,
ah, d'accord.
C'est ça?
Ouais.
Oui.
Bon, mon frère, surveille ta santé. Tu ne peux pas jeûner au détriment et au risque de mettre ta santé ou ta vie en péril. D'accord. Donc, il n'est pas question que tu mettes ta vie en péril pour jeûner. Si tu sais que jeûner provoque un véritable danger sur ta vie ou ta santé, tu es totalement exempté. Et bien entendu, moi, en tant qu'imam, je renvoie la question au médecin et la réponse du médecin, ça sera la mienne. S'il dit jeûne, jeûner, c'est ce que dit l'imam. Si le médecin dit non, vous jeûnez pas, et ben c'est la position identique de l'imam.
Voilà ce que vous répond l'imam Abdelali. Mamoun Nasser, d'autres questions?
Allô, l'imam, au
01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et à 18h, vous retrouverez Kamel Chekat pour sa nouvelle chronique du Ramadan, les contradictions supposées du Coran. Vous appelez à l'Olimam au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000. Et nous avons Tariq qui est avec nous. Tarek, bienvenue. Alors Tarek, vous êtes avec nous, vous êtes en direct.
Oui, bonjour.
Bonjour. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaba.
Salam. Salam. Excusez-moi,
l'imam. Ramadan, Ramadan, Mubarak, Karim, akhi. J'ai
une question à vous poser, si vous permettez. Alors moi, je commence le travail à 5h du matin et je fais mes ablutions à la maison avant de partir au travail. Le souci, c'est que quand je suis au travail, ça m'arrive de refaire mes ablutions. Je vais savoir si, est-ce que en refaisant mes ablutions, je peux garder mes chaussures ou pas pendant les ablutions.
Alors, quand tu as fait tes ablutions, quand tu es sorti de la maison, tu as mis tes chaussettes?
J'ai mis mes chaussettes.
Alors, les chaussettes doivent être épaisses et les chaussettes doivent monter au-dessus des chevilles. D'accord. Tu as lavé tes pieds, tu as mouillé tes pieds, tu les as lavés avec de l'eau, d'accord. Ensuite, tu as mis les chaussettes qui sont à la fois épaisses et hautes, c'est-à-dire qu'elles montent au-dessus des chevilles. Et au moment où tu refais tes ablutions quand tu arrives au travail, tu veux faire l'eau d'eau et essuyer sur les chaussettes au-dessus du pied, non pas sous le pied. C'est dessus du pied, une fois sur le pied droit et une fois sur le pied gauche.
D'accord. Je vais les chaussures.
Ah bah oui, les chaussures, comme elles ne montent pas au-dessus de la cheville, c'est pas valable.
D'accord.
Si les chaussures, elles étaient au-dessus, c'est des chaussures hautes qui ne sont pas des... Comment on appelle ça, Philippe, les chaussures hautes, là? J'ai appelé ça, moi, les baskets américaines. Hein,
qu'on était oui, là. on peut appeler ça les bonnes.
Les Timberland. Les
godasses. Voilà. Les godasses. Les godasses?
Non.
Ah bon? Je ne sais pas. Au bled, on appelle ça des godasses.
Au bled, oui.
Ouais, parce que j'ai mon beau-frère qui, lui, appelle les chaussures, il appelle ça des souliers. J'ai dit c'est fini, on dit plus souliers, je lui dis. On dit des chaussures. Bon, en tout cas, tes chaussures, est-ce qu'elles montent au-dessus de la cheville? C'est une petite
boutade.
Hein?
Non, elles sont en dessous de la cheville.
Eh ben, donc tu es obligé de les enlever. Ça là, c'est pas valable. Tu peux pas essuyer sur les chaussures. Il aurait fallu que tes chaussures montent au-dessus des chevilles. Ça soit des. Ensuite, bien entendu, tu essuies sur la chaussette. Il y a pas de problème. Tu enlèves la chaussure, tu essuies, tu remets la chaussure tout de suite. T'as pas besoin de monter D'accord. le pied sur le lavabo.
D'accord.
Voilà. Mais attention, la chaussette doit monter, ce sont pas des chaussettes basses là, avec qui se mettent au niveau de la cheville, c'est-à-dire qui s'arrêtent au niveau de la cheville. Il faut vraiment que ça monte au-dessus de la cheville. Il faut que les chevilles soient recouvertes. C'est ce qu'on appelle les règles de l'essuyage des jawarib ou des khufayn, hein, qu'on appelle aussi le khufayn, qui était effectivement une pratique du prophète. Souvent, il utilisait ces choses-là qui étaient fabriquées avec du cuir. Et après, il y a eu ceux qui ont utilisé des tissus épais. Mais si vous utilisez un tissu fin, comme par exemple un collant ou un bas, c'est pas valable. Vous pouvez pas faire ça avec un collant.
D'accord.
Ou un bas. Parce qu'on voit la peau à travers.
Ok. Et la prière, est-ce que je peux faire la prière en gardant les chaussures ou pas?
Ah oui, alors oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand tu as fini l'eau d'eau et que tu avais enlevé tes chaussures et tu as sué sur la chaussette, tu remets tes chaussures et après tu pries avec tes chaussures, il n'y a aucun souci. C'est normalement la règle. Moi, je vois pas pourquoi on a inventé ce truc quand on veut faire sa prière d'enlever nos chaussures. Normalement, la règle, c'est de garder ses chaussures. Pour votre information et pour tous ceux qui nous écoutent, à l'époque du prophète, les compagnons, quand ils rentraient dans la mosquée, ils avaient leurs chaussures, leurs sandales, leurs khufayn, etc., qui avaient à leurs pieds, ils ne l'enlèvent pas. Un jour et seulement une seule fois, le prophète, pendant la prière, a jeté ses sandales devant lui. Les compagnons, quand ils ont vu le prophète jeter ses sandales, ils ont fait la même chose. Et le prophète, après la prière, leur dit, mais pourquoi vous avez jeté vos sandales? Il dit, parce qu'on t'a vu, toi, t'as jeté tes sandales. Et là, le prophète a dit, non, parce que Jibril est venu me voir, il m'a informé que mes sandales étaient souillées d'une impureté. Donc c'est pour cela que je les ai enlevées. Mais vous n'avez pas de souillure dans vos chaussures, donc vous n'avez pas enlevé vos chaussures. Voilà ce qu'a dit le prophète à ses compagnons. Et c'est comme ça que pratiquaient la prière les compagnons et le prophète avec leurs sandales et leurs chaussures. Voilà, j'ai tout dit.
Merci Tarek pour votre question. La question d'un enfant, et c'est Yazid qui est avec nous. Bonsoir, bienvenue, bon ramadan Yazid.
Yazid, salam alaykoum, ramadan moubarak karim.
Salam alaykoum.
Ça va, Habibi, t'as quel âge?
J'ai 11 ans.
Eh ben bravo, t'es en 6e, c'est sûr. Combien?
Je suis en 6e.
T'es en 6e, voilà ce que je disais.
Il n'est pas belge, lui.
Ah non, de toute façon, même... mais t'es pas en Belgique, tu n'appelles d'où, Yazid?
Non, je vous appelle de Paris.
Ah, Paris, donc t'es un Parisien. Ok. T'as une question à poser, Yazid? Vas-y, je t'écoute.
J'ai une question. Et en fait, est-ce que nous, les enfants, on a le droit de faire le ramadan?
Attends, j'ai pas compris la question.
Est-ce que nous, les enfants, on a le droit de faire le ramadan?
Est-ce qu'on a le droit? Oui, vous avez le droit. C'est même recommandé aux parents d'encourager leurs enfants dès que c'est possible, dès qu'ils ont des conditions physiques pour le faire, de commencer à jeûner quelques jours pendant le mois du Ramadan, avant leur puberté. Mais ça devient obligatoire à la puberté. Mais avant la puberté, ça n'est pas obligatoire. Mais est-ce que c'est interdit? La réponse est non, bien sûr. Même avant la puberté, eh bien, les enfants sont invités à commencer à jeûner. Oui, c'est très bien. Tu jeûnes aujourd'hui, Yazid?
Non, parce que ma mère, elle veut pas, elle veut juste me laisser pendant les week-ends.
Ah d'accord, moi ma fille elle a 11 ans, elle est jeune, hein. Elle s'appelle Dria, là. Bon, c'est vrai qu'elle pèse quand même.
Mais arrêtez avec ça, parce que
elle est bien enveloppée,
arrêtez.
Ma fille, je l'adore, je la kiffe, je fais un gros arrêtez. Bisou au passage. Elle, c'est vrai que il faut surveiller son hydratation, parce que quand on est petit, ça peut être dangereux pour un enfant. hein, de s'abstenir de manger, de boire toute une journée. Donc il faut surveiller son corps, surveiller l'état. Donc les parents doivent bien surveiller leurs enfants quand ils les sollicitent au jeûne. Mais c'est très bien, Yazid. Fais un maximum de jours possible et qu'Allah il te récompense, il te comble de bonheur et il te préserve tes parents et la joie d'être avec eux, Inch'Allah. Aïe. Salam alaikum, au revoir Yazid.
Merci Yazid. Allez, allô l'imam, jusqu'à 18h01 53 48 3000 si vous voulez poser vos questions à l'imam Abdelali Mamoun, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et c'est allô l'imam au 01 53 48 3000. Hassan est avec nous. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Hassan.
Oui, bonsoir, merci beaucoup.
Oui, bonjour, salam alaikum.
Oui, bonjour, salam alaikum. Alors, j'avais une petite question.
Ben, vas-y, on t'écoute.
Oui, alors, je voulais savoir si c'était possible de faire une ramadan avec un crédit maison.
Un crédit
de maison.
Ah, oui. Alors qu'on a un crédit maison, c'est ça? Oui, oui, c'est possible, c'est possible. Alors, à quel moment on ne peut pas aller à la Umrah ou au Hajj avec de l'argent? C'est quand on a des créanciers qui nous réclament notre argent immédiatement. C'est-à-dire qu'on doit, on est redevable de cet argent immédiatement. Mais par contre, si je signe un contrat avec quelqu'un, ou n'importe qui, hein, et que je paie mes mensualités, et que j'ai de l'argent en plus, et que cet argent en plus ne m'empêche pas d'aller à la Umrah tout en continuant à payer mes mensualités, je peux faire la Umrah. Par contre, si je suis harcelé de lettres d'huissier, de relance, mise en demeure, etc., et moi qu'au lieu de rembourser mes dettes, je prends cet argent pour aller à la Umrah, bien sûr que non. Là, c'est pas possible. Tu peux pas aller à l'Hajj alors qu'on te, on te réclame de l'argent immédiatement. Par contre, sinon, toi, tu continues à payer tous les mois, il y a aucun problème. Maintenant, effectivement, le crédit usurier, c'est en principe un des sept péchés capitaux. C'est, il y a pas plus opportun qu'une Umrah pour essayer de se faire pardonner, puisqu'il faut faire la taouba. Hein, de cette faute. On doit faire la taouba de ce péché. Hein, donc il n'y a pas mieux que d'aller à la Mecque et demander à Allah Azzawajal de vous pardonner. Et donc oui, si ces mensualités ne vous empêchent pas de faire la Umrah et que le Umrah ne vous empêche pas de continuer à payer les mensualités, il n'y a pas de souci. Voilà, tout est dit.
Merci Hassan. Samira est avec nous. Samira, bienvenue et bon Ramadan.
Salam
alaykoum,
vous m'entendez?
Wa alaykoum salam, marhaba nourti Samira.
Merci beaucoup, je vous souhaite un très beau Ramadan.
Ramadan Moubarak.
Alors moi j'avais une question s'il vous plaît, parce que je vous ai écouté depuis un quart d'heure, et tout à l'heure au monsieur vous avez dit, si un médecin il dit ça, entre guillemets vous suivez le médecin. Je vous explique mon cas, depuis 5 ans, je fais des infections urinaires qui montent dans les reins, dès que j'essaie de jeûner, de plus boire de l'eau pendant toute une journée. À chaque fois, j'atterris à l'hôpital parce que je fais des infections urinaires. J'ai fait des examens en 5 ans et il s'avère que mon rein gauche, qui est plus gros que le droit, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il filtre moins bien. Et du coup, à chaque fois que j'essaie de refaire le premier jour du Ramadan, au bout de 3-4 jours, infection urinaire et j'atterris encore à l'hôpital. Donc du coup...
Donc c'est classé, votre question, votre problème est classé. Vous, pour vous, il n'y a pas de jeûne, c'est tout. C'est, votre problème est résolu. Donc, vous n'êtes pas concerné par le jeûne. Vous pratiquez le Ramadan autrement, la fidya, en faisant des bonnes actions autour de vous, en rendant visite aux malades, à la famille, etc. Vous pratiquez le Ramadan, pas en jeûne, mais autrement. Hein, je répète à tous nos auditeurs que le Ramadan, c'est un mois qui est sacré. Ce n'est pas que jeûner, c'est aussi plein d'autres choses autour du jeûne. C'est plein d'autres choses, donc faut pas vous focaliser, vous dire que moi si je peux pas jeûner, ça y est, c'est mort, j'aimerai pas de récompense. Au contraire.
Là, j'ai une question à poser à madame.
42 ans.
Ah, attendez.
Du coup, c'est un peu frustrant, vous voyez.
Moi, j'ai une question à vous poser, chère madame.
Vous êtes malade.
Imam, Ousmane voudrait poser une question. Ouais.
J'ai une question à vous poser. Est-ce que la réponse que l'imam vous a donnée, vous la connaissiez déjà?
Moi, je la connais, mais mon mari, tous les ans, il me dit, t'es sûr, tu veux pas retente. Et mon propre médecin qui me suit, il me dit, il faut pas, Samira, risquer ta santé, parce que toi, ça
Est-ce que votre mari ne serait pas de se débarrasser de vous pour se remarier avec une autre, là? C'est pas, moi,
alors,
c'est
le premier jour du mois de Ramadan, non, imam, vous êtes sérieux. Parfait, vous êtes en forme.
Non, mais attendez, là, c'est quoi ce mari-là qui veut. Attention, elle, madame, donc, d'accord, tu la laisses vivre. Elle ne fait pas le Ramadan. Elle te dit, une infection urinaire, c'est pas rien, c'est quand même très grave. On peut en mourir en une infection urinaire. Hein. Donc, ça, on s'amuse pas avec ça. Vous n'avez pas de jeûne, madame, pour vous, ce mois de Ramadan. C'est, par exemple, prendre soin de votre mari, par exemple, c'est très bien.
Bah, à condition qu'ils prennent soin d'elle, hein, parce qu'apparemment.
Ouais, mais nous, on veut surtout les hommes que les femmes prennent soin de leur mari.
Ouais,
tu
vois ce que
je
veux dire? Il faut qu'elles soient en forme pour le faire. Hein. Mais ça, c'est pourquoi j'ai posé cette question, parce qu'effectivement, on doit libérer la conscience des gens. L'islam, c'est simple. Il n'y a pas besoin. Il y a des cas, on est son propre moufti. C'est tellement évident. Oui. On connaît son propre corps, on connaît ses propres limites. Personne ne peut se mettre à notre place. Et donc, il faut avoir confiance quelquefois en ses avis. Dieu est pardonneur et il ne veut pas nous punir. Donc, quand on sent qu'on n'est pas bien, c'est évident. Il ne faut pas jeûner.
Sauf si votre mari veut se débarrasser de vous. C'est bien
bon,
ce que
ça.
Non, ça, c'est une autre histoire. Je plaisante.
Inch'Allah.
Rabbi yitqabbal wa yakhlik rajlak inch'Allah wa yakhlik lih inch'Allah.
Merci Samira, c'est la première fois que nous retrouvons pendant ce mois de Ramadan Kamel Shekat qui est avec nous. Kamel Shekat, bonsoir.
Allahu Akbar. Moi j'applaudis des deux mains là, déjà avant. Allah, mashallah. Notre perle du Ramadan. يا عطيك الصحة رمضان مبارك كريم شيخنا أهلا وسهلا أستاذ الفاضل أهلا بك ça va très bien.
Kamel Shekat hein, qui est chercheur en théologie, membre fondateur des Ouléma du Sahel. Kamel,
oui, une pointure que l'on contacte depuis Alger.
C'est vrai, voilà. Oui. C'est notre super héros, mais il veut pas que je le dise.
Sinon, si, voilà. Moi je dis ça. Il combat le terrorisme.
L'ami de Cheikh Abdel Ali.
Ah ben écoute, je suis ravi et honoré surtout d'être ton frère et ton ami, mon frère. Franchement, c'est partagé. J'ai que des bons sentiments à ton égard et je suis très ravi, très content d'être ton ami. Surtout que c'est une star de la télé algérienne. Faut pas oublier. Hein. Quand vous allumez les télés algériennes, on voit souvent déjà les émissions francophones, notamment l'émission Réflexion. Je sais pas combien il y a d'émissions là. Où est-ce que il est un petit peu le référent francophone de la télévision algérienne. Voilà.
Je n'irai pas jusqu'à dire.
Bah, depuis le décès de Cheikh Ben Radouane, c'est toi qui est maintenant l'un des rares qui est compétent pour.
On essaye.
Masha'Allah alayk. Allah yjazakallah.
Bien. Alors, Kamel Shekat, nous allons parler cette année des contradictions supposées du Coran.
Oui, je dis supposé parce que je suis musulman et je pars du principe qu'il n'y a pas de contradiction dans le Coran. D'ailleurs, je me fie au verset 82 de Sourate Nisa où il est dit « Ne médite-t-il pas le Coran s'il provenait d'un autre qu'Allah, il y trouverait certes maintes contradictions. »
Alors,
quand nous parlons de contradictions, nous parlons essentiellement de contradictions que nous relevons dans des sites qui sont dédiés pratiquement à cela, des sites athéistes, il y a même des sites évangélistes, qui sont dédiés pratiquement à l'étude du Coran et à ce genre de sujet. Alors tout d'abord, je voudrais dire à tous les musulmans qu'il est très très bon de s'informer sur le sujet, de s'informer sur ce qui se dit aussi sur le Coran, parce que c'est déjà un très très bon exercice pour l'esprit. Et puis, moi, depuis le temps que je m'intéresse à tout ce qui se dit, surtout dans les sites athéistes, sur toutes les religions, pas uniquement sur l'islam, ça me permet de sortir d'un islam héréditaire vers un islam plus réfléchi. Donc, avant même de vous donner des exemples de versets dont on dit qu'ils sont contradictoires et que vous pourriez trouver justement dans ces sites ou dans certains manuels, je voudrais vous donner un premier exemple qui suscite l'interrogation déjà des musulmans, avant de susciter celle d'un non-musulman. Et dans l'exemple que je vais vous donner, il y a une contradiction d'ordre juridique, mais qui échappe aux détracteurs du Coran, parce qu'ils n'ont pratiquement aucune rigueur dans leur prétendue étude critique du Coran. En parlant des dispositions juridiques liées aux successions, mawarith, Dieu dit à la fin du verset 12 de Sourate Nisa, et si un homme ou une femme meurt sans héritier direct, cependant qu'il laisse un frère ou une sœur, à chacun de ceux-ci alors un sixième. S'ils sont plus de deux, c'est-à-dire les hommes et les femmes, tous alors participeront au tiers après exécution du testament ou paiement d'une dette sans préjudice à quiconque. Telle est l'injonction d'Allah et Allah est omniscient et indulgent. Donc ici, nous sommes dans un cas de figure où la femme hérite la même quote-part, prend la même part que l'homme. Dans la langue arabe, parce que ce cas dans le mawarit, Cheikh Abdelali le confirmera, on appelle ça le kalala. On dit d'un homme qui n'a ni ascendant, père ou grand-père, ni descendant, fils ou petit-fils, rajulun kalala, un homme kalala. Dans le domaine des successions, cette situation est appelée al-kalala, le diadème en quelque sorte. Parce qu'un diadème, c'est un objet concentrique qui n'a ni haut, ni bas, ni rien sur les côtés. Dans ce cas, si le défunt a un frère ou une sœur, ils auront chacun le sixième de la succession. S'ils sont plusieurs frères et sœurs, ils se partagent le tiers. Dans les deux cas de figure, hommes et femmes prendront des parts égales. Ça, c'est le verset 12 de Sourate Nisa. Au verset 176 de cette même sourate, toujours dans le domaine de l'héritage, il est dit « Il te demande ou il t'interroge ce qui a été décrété, dit, au sujet du défunt qui n'a ni père ni frère, Allah vous donne son décret. Si quelqu'un meurt sans enfant, mais a une sœur, à celle-ci revient la moitié de ce qu'il a laissé. Et lui, il héritera d'elle en totalité, si elle n'a pas d'enfant. Mais s'il a deux sœurs ou plus, à elle, alors, les deux tiers de ce qu'il a laissé. Ici, il a des frères et des sœurs, et c'est là qu'il va y avoir un changement, parce que pour le premier verset, le verset 12, frères et sœurs prendront des parts égales. Ici, il est dit, et s'il a des frères et des sœurs, à un frère, alors, revient une portion égale à celle de deux sœurs. Alors, Allah vous donne des explications pour que vous ne vous égariez pas. Et Allah est omniscient. Nous sommes toujours dans la situation dite kalala. Mais dans ce verset, il est dit que le frère prendra le double de la part de la sœur. Nous sommes dans la logique du début du verset 11 de Sourate Nisa qui dit « Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants ou fils, une part équivalente à celle de deux filles. » Donc pour beaucoup de gens, il y a une contradiction flagrante. Certains pourraient crier donc à la contradiction, mais il n'en est rien. En fait, les dispositions juridiques du verset 12 concernent les demi-frères et demi-sœurs du défunt du côté de sa mère uniquement. Les dispositions juridiques du verset 176 concernent les frères et sœurs issus d'un même père et d'une même mère en y ajoutant les demi-frères et demi-sœurs du côté du père uniquement, pas du côté de la mère. Et n'eût été la tradition prophétique et l'exégèse du Coran, nous n'aurions, même nous musulmans, pas pu dissiper ce qui apparaît comme une contradiction. Donc, tout musulman que je suis, ou le petit musulman que je suis, reste dans sa logique. Il ne peut y avoir de contradiction émanant du Coran, parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, ceux qui ne sont pas musulmans, ou ceux qui font des critiques ou soi-disant critique du Coran, ne cesse de parler de pas mal de contradictions. Et c'est ce que nous verrons tout au long de ce mois béni de Ramadan, avec un esprit critique. Et je le redis encore une fois, normalement, les musulmans ne devraient trouver de la gêne, ni s'offusquer du fait qu'il y ait des gens qu'on peut considérer comme des détracteurs du Coran et qui vous pendent comme ça ce que moi j'appelle des contradictions, des supposées contradictions. Donc la chose, nous allons, je l'espère du moins, nous livrer à un très très bel exercice de l'esprit, quelque chose qui nous permettra, durant le mois du Coran, de lire le Coran avec beaucoup plus de recherche, avec beaucoup plus d'intelligence, et non d'une manière que je qualifierais de sèche, comme celle que font beaucoup, beaucoup de gens. Voilà donc pour cette introduction, et puis le reste viendra à partir de demain, Inch'Allah.
Mashallah. Malgré la complexité, il a su rendre vraiment d'une simplicité un sujet aussi, aussi compliqué.
Est-ce qu'il nous reste un peu de temps? Est-ce qu'il nous reste un tout petit peu de temps?
Oh ben, pour Philippe, il n'y a pas de problème.
Généralement, les gens pensent que la femme hérite toujours la moitié de ce que peut hériter un homme, ce qui est faux. Ceci est valable dans une fratrie entre frères et sœurs. La grand-mère hérite la même part que le grand-père, et généralement, dans la majorité des cas, c'est les femmes qui héritent plus que les hommes. Nous avons même un cas d'école dans ce sens. Il y a une femme qui est venue voir un jurisconsulte disant « Mon frère a décédé, il a laissé, on va dire 600 euros, hein, pour pas parler de dirhams ou de dinars. » Il a laissé 600 euros, on m'en a remis qu'un seul en me disant « voici ta part de l'héritage ». Elle criait au scandale. Et là, le jurisconsulte, parce que quand nous étudions les successions, nous faisons déjà pratiquement un module sur les fractions pour commencer à étudier les successions. Et là, le jurisconsulte lui dit « sans doute ton frère est mort en laissant une mère, une épouse, deux filles, et toi, tu as 12 frères. » Elle dit, mais comment as-tu pu savoir cela? Il a dit, c'est très très simple. La mère prend le sixième. Donc des 600 euros, elle en prend 100. L'épouse prend le huitième. Donc des 600 euros, elle va en prendre 75. Les deux filles, puisqu'il n'a laissé que deux filles, généralement quand un homme laisse une fille sans frère, elle prend la moitié de la succession. Quand il a deux filles, elle prend les deux tiers. Les deux tiers sur 600 euros, c'est 400. Donc 400 euros pour les deux filles, 75 euros pour l'épouse et 100 euros pour la mère. Nous arrivons à 575 euros et là, il reste 25 euros. Tu n'en as pris qu'un seul, alors que tes 12 frères se sont partagés 24 euros. Ils ont eu le double de ce que tu as pris.
Il lui restait qu'un euro.
Mais n'oublions pas que dans ce qui a été laissé, ce sont les femmes qui ont pris la plus grosse part.
Les deux tiers,
dans 400 euros. Oui, 475. Dans le Canada, les femmes et les hommes, frères issus de la mère uniquement, des demi-frères et demi-sœurs du côté de la mère, prennent des parts égales. Contrairement aux frères et sœurs issus d'un même père et d'une même mère, ou bien du père uniquement. Ceux-là vont se retrouver sous la disposition qui dit que le bon, c'est là, bien sûr, c'est un peu corsé, mais là, en citant cet exemple, je veux juste que nos auditeurs comprennent que dans les études coraniques que nous faisons avec nos maîtres, et vous avez vécu cela peut-être avant moi, Cheikh Abdelali, il y a cette recherche critique. Quand il y a une interrogation, un questionnement, on le soumet au maître, et il nous répond. Ça veut dire que, avant même que d'autres obédiences nous trouvent des contradictions, nous avons une lecture de notre livre qui fait que nous sommes vraiment... même peut-être plus pointu et plus rigoureux en la matière. Et bon, ça, c'était juste pour donner l'exemple et ouvrir l'appétit un peu à nos auditeurs. Demain, nous commencerons à répéter des versets comme ça qu'on nous présente comme étant des contradictions, mais qui n'en sont pas, mais qui ne sont pas en fait des contradictions. Et nous le démontrerons.
Bien. Kamel Chekat sur Beur FM tous les soirs de ce mois de Ramadan. À demain, Kamel.
C'est ce qu'on appelle kashf al-shubuhat, le fait de mettre d'éclairer les choses douteuses qui peuvent semer le doute dans l'esprit des croyants.
01 53 48 3000. Nous avons Elimat qui est avec nous au téléphone. Elima, bonjour et bienvenue.
Allô, c'est moi.
C'est vous.
C'est Halima.
Halima, bienvenue.
Halima. Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Je vous appelle parce que bon, j'ai deux questions à vous poser, s'il vous plaît.
Non.
C'est pour ma fille qui a 47 ans. Elle est mariée, ça fait 20 ans à peu près, avec un Français. Elle a deux garçons, un de 18 ans, l'autre de 16 ans. Et elle me dit, tous les ans, on fait le carême. Même Philippe, il fait le carême. Ça veut dire mon gendre. Et je voulais savoir si Makboul a
Mais ce n'est pas Philippe Robichon, là, vous parlez, là. C'est un autre.
Non.
Ah,
non,
d'accord,
non,
je pensais qu'on parlait de...
Non.
Makboul.
Elle me dit...
Je ne savais pas que c'était une belle, ta belle-mère, elle s'appelait Haliba.
Non. Et elle me d'accord. Dit, et elle me dit aussi, Nan Kharaj Al-Sitra pour quatre personnes. Je voulais savoir, est-ce que c'est Makboul Adl-Ilar ou non?
C'est-à-dire que là, vous voulez savoir qui paye la fitra, zakat al-fitr pour ses enfants, c'est
non,
ça?
Non, déjà, non, c'est pas ça. Déjà, il fait le carême.
Il jeûne le ramadan. Ouais. Ah, ouais, mais je suis musulman.
Non.
Ah, ouais, mais je suis musulman. Il n'est pas concerné par le.
Tout,
il n'y a pas
tout.
De zakat.
Anglade, c'est pas français. C'est pas arabe.
Non, mais même tout. S'il n'est pas arabe, il y a des Philippe qui sont convertis à l'islam, ma sœur. Il y a pas.
Oui, mais lui.
Lui, il n'est pas musulman. Pas. On est d'accord. Donc, vous me parlez de quelqu'un qui n'est pas musulman. Ok. Bah, il n'est pas concerné ni par la zakat fitr ni par le ramadan. Tout simplement, on le laisse tranquille. On le laisse tranquille et on ne verse rien pour lui, ni contre lui, ni pour lui.
Mais ma fille, elle m'a dit, même Philippe, il commence à faire ramadan. Alors, je
Non, en fait, elle veut savoir si auprès de Dieu, c'est possible. Ouais. En fait, ça, à la rigueur, c'est pas trop notre problème, entre guillemets.
S'il
veut jeûner.
Madame, est-ce qu'il est musulman ou non? Est-ce qu'il a prononcé la shahada ou non?
Non, il n'est pas musulman.
S'il n'est pas musulman, alors son ramadan, c'est un régime qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc, il n'est pas concerné par les préceptes de l'islam.
Et s'il veut, et s'il décide de le faire quand même, faut pas l'empêcher.
Mais il fait ce qu'il veut. Il est libre, bien sûr, de faire ce qu'il veut. On va pas l'empêcher, bien sûr.
Donc j'avais raison, quoi. C'est tout ce que je voulais savoir.
Mais zakat al-fitr, en ce qui le concerne, n'est pas une obligation.
Vous aviez raison sur
vous,
quoi
pour personne.
Vous aviez raison
zakat
sur quoi
zakat al-fitr, 4 rajas, il y a quelques jours avant, pour 4 personnes, pour son mari et ses 2 garçons.
Il n'y avait pas besoin de le sortir pour son mari s'il n'est pas musulman.
Ah bah alors, c'est pas... Voilà.
Déjà, il y a un problème d'être marié avec un non-musulman, c'est un problème déjà. Je vais être honnête et direct avec vous.
Vous savez, ils sont nés ici. Et
oui, mais bon, il y a un problème déjà.
Pour le mariage, ils voulaient pas.
Est-ce qu'un musulman a le droit, une musulmane a le droit de, d'être mariée avec un non-musulman? Ça,
maintenant,
c'est...
ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Hein.
Oui, j'ai compris, mais ça change. La règle, elle existe depuis 1400 ans. Elle était là avant qu'ils se marient, eux. Et pas aujourd'hui qu'Abdelali a sorti la loi de sa tête. Et c'est dans les préceptes de l'islam depuis 1400 ans. Où le prophète, l'année 2 de l'Hégire, il va ordonner à Abul As ibn Rabi', le mari de Zainab, sa fille, de renvoyer sa fille tout simplement parce qu'il n'est pas musulman. Il dit non, tu peux pas, toi, rester vivre, ma fille, en parlant de sa fille Zainab, avec un non-musulman qui est pourtant son cousin, le cousin de sa fille. Le cousin maternel de sa fille. Abul As, il n'est pas musulman, donc il dit à sa fille, non, tu peux pas rester avec lui. Et alors qu'ils étaient mariés depuis très longtemps, ils avaient même déjà 2 enfants, elle était enceinte d'un 3e.
Et donc,
voilà, pour cette dame-là, tout va bien. Malgré toutes ses bonnes actions. Ah. Et que,
vous m'avez fait peur, Imam Abdelali.
Non, il n'y a pas de problème.
Bien. Ousmane Timera, dans un instant. Je rappelle que le very important auditeur est de retour, Imam Abdelali. Donc, si vous voulez être avec nous, allez, 2 minutes avant la den et repartir avec un cadeau qui vous est offert par Mo le patron. Une télé connectée de 32 pouces ou un robot aspirateur d'une valeur de 200 €. Eh bien, il faudra composer le numéro du
journal. Génial. Voilà. Mo le patron. Vraiment, c'est le patron.
Ouais, j'espère qu'il sera avec moi un soir. En tout cas, si vous voulez un aspirateur robot, Imam Abdelali, c'est ce soir.
J'ai acheté un aspirateur chez lui. Il est superbe, il marche très bien. Ouais, à Buchelet, à Mantes-la-Jolie.
Ramadan & Co. revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co. avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beur FM. Ouais,
la den en direct à 18h53 sur Beur FM. Mais il est l'heure de retrouver Ousmane Timera. Ousmane.
Oui. En peu de temps, dire l'océan et se permettre de s'élever au-dessus. à travers un livre qui nous interpelle et qui nous raconte une petite histoire qui devrait normalement nous permettre de ne pas confondre la forme et le fond. Il y a des finalités. Une vache a été sacrifiée, ou en tout cas on a demandé à ce qu'elle soit sacrifiée. Et les gens, quelquefois stupides ou confondant donc par manque d'intelligence le fond et la forme, en tout cas se contentant de la forme surtout, vont se mettre à pinailler sur les détails. Elle est rouge, elle est grande, elle est comment ? Il en va de même quand il s'agit de religion. Nous alourdissons notre religion par manque d'intelligence quant à ses finalités. J'étais tout à l'heure avec un prophète, je n'en suis pas un, je lisais son histoire. Et le propos a été résumé en quelques phrases de la part de Noé. Le but, c'est d'avertir. Le but, c'est d'adorer le divin. Le but, c'est de suivre le message. Un message qui est là pour nous guider vers l'intelligence. Un message qui nous dit qu'au-delà des apparences, il y a un fond que ton intelligence doit saisir et comprendre. Les cinq piliers ont des finalités, ont des buts. Ces buts sont spirituels. Le jeûne n'est pas là pour juste avoir faim ou pour juste se contenter de respecter des règles formelles. Il s'agit de s'empêcher d'aller vers la turpitude. Il s'agit de s'empêcher d'aller dans la médisance. Il s'agit d'être un meilleur être humain. Sinon, il ne sert à rien d'avoir faim et soif si il ne s'éduque pas à l'excellence, à la beauté de l'âme. La zakat est là pour, bien sûr, nourrir les pauvres, mais aussi permettre à ce que nous nous éduquions, que notre cœur s'élève. Le hajj a pour objectif, bien sûr, de voyager, d'aller visiter ces moments ou ces endroits fabuleux, magnifiques, qui nous font rappeler la longue histoire d'une seule et même religion. Mais elle a aussi pour Il a aussi le pèlerinage pour objectif de nous élever au-dessus de la turpitude, du bavardage, de l'inutile. L'adoration qui ne fait pas de nous de meilleurs êtres humains est une adoration nulle. L'adoration qui ne te rend pas plus intelligent est une adoration nulle. L'adoration qui ne fait pas de toi un meilleur être humain dans tous les domaines est une adoration nulle. Nulle est l'adoration qui te rend plus dur. Nulle est l'adoration qui ne te permet pas d'être plus miséricordieux. Tu jeûnes aujourd'hui, tu jeûneras demain, nous l'espérons. Nous allons jeûner jusqu'à la fin de ce Ramadan, pourvu que nous soyons des meilleurs êtres humains à la fin. Sinon, nul est notre Ramadan.
Masha'Allah.
Dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Beurre FM. Ramou Vision. Le Coran en arabe et sa traduction en français.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
الحمد لله رب العالمين.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers.
الرحمن الرحيم.
Le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
مالك يوم الدين
Maître du jour de la rétribution
إياك نعبد وإياك نستعين
C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours
إهدنا الصراط المستقيم
Guide-nous dans le droit chemin
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
Qui croient à l'invisible et accomplissent la salate et dépensent, dans l'obéissance à Allah, de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, révélé, et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croit fermement à la vie future. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future.
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais.
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
Allah a scellé leurs cœurs et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas.
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون.
Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte.
في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.
Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ.
Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. »
أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.
Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ.
Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ.
Quand ils rencontrent ceux qui ont cru, ils disent « Nous croyons ». Mais quand ils se trouvent seuls avec leur diable, ils disent « Nous sommes avec vous ». En effet, nous ne faisons que nous moquer d'eux.
Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahoun.
C'est Allah qui se moque d'eux et les endurcira dans leur révolte et prolongera sans fin leur égarement.
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre l'égarement. Eh bien, leur négoce n'a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm. Beurrefm, le Ramadan, 30 jours avec vous. 30 jours avec
vous. Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurrefm.
Et c'est le retour du very important auditeur, imam Abdelali, qui va terminer la journée avec nous et qui repartira avec un cadeau offert par Mo le patron, une télé connectée de 32 pouces ou un robot aspirateur. 01 53 48 3000, c'est peut-être vous qui serez avec nous dans un instant. 01 53 48 3000, imam Abdelali.
Oui, je voulais aussi parler du restaurant qui nous invite ce soir et qui, avec qui on va rompre pour la première fois cette année le jeûne du mois du Ramadan. C'est Al Maïda. C'est le restaurant qui s'appelle La Table Servie, qui se trouve à Salim et Ris-Orangis. Tu peux mettre un peu de son pour Salim, ouais. Vas-y Salim, alors qu'est-ce qu'il y a dans ton resto?
Oh, il y a tout ce que vous voulez, restaurant Machin traditionnel.
Alors c'est où l'adresse? Où
79 route de Grigny, et si vous voulez de la part de Beurre 70... FM, on vous fait 10%.
79 route de Grigny, 10% s'ils viennent de Beurre FM.
Absolument.
Et il y a le f'tor aussi ils peuvent...
Ah bien sûr, il y a le f'tor pendant toute la durée du Ramadan, le f'tor bien entendu est prévu sur place.
On va y aller alors?
Avec plaisir.
Bien, allez tiens, numéro entre 1 et 6.
Allez, on va dire le 7.
Je sais.
Oui, comme bon, on n'a pas de temps, alors le 3. Tiens, l'auditeur numéro 3.
On y va.
Allez, bonsoir.
Oui, allô.
Oui, bonsoir. Quel est votre prénom?
Maïmouna.
Maïmouna, c'est vous la very importante auditrice, Maïmouna. Vous nous appelez d'où?
Oui. De Versailles.
Bien.
Versailles, mashallah.
Ça rigole pas.
Ouais, ça rigole pas.
Bon, Maïmouna, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un aspirateur ou une télé?
Au château, non, je pense pas.
Oh, une voiture.
Aspirateur.
L'aspirateur qui vous ferait plaisir, qui est offert par Mo, le patron. Alors, est-ce qu'il y a des personnes avec qui vous voulez passer un message?
Oui, avec ma mère.
Oui.
Et mes frères et sœurs.
D'accord. Est-ce que vous savez ce que vous avez préparé ce soir pour manger?
Oui, on a fait des briques et shawarma.
D'accord.
Pour
le premier tour, en fait.
Bah, c'est bien. On démarre doucement. Les briques et la shorba, c'est bien.
C'est la base.
C'est le tour du futur.
Par contre, nous, on démarre fort avec la table service et du lourd. Ce soir, la table, c'est du grandiose. Hein. Franchement, nous, à Beurre FM, on est gâtés.
On va goûter.
Machallah. Franchement, les fruits, les fraises, il y a tout là-dedans. Magnifique. Les
gâteaux, la table est vraiment servile.
Elle est servie, mais avec un grand S servi. Hein. Avec un grand S. Allah ybarak lak Salim. Firsqak wa ybarak lak fi dhurriyyatik inchallah.
Bon, Maïmouna, vous restez en ligne, on va prendre vos coordonnées.
Souhaite un bon ramadan. Sksodari, Meichtadari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلاة إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا في هذا الشهر المبارك بمزيد من الأجر والثواب آمين آمين والحمد لله رب العالمين
كسكس داري كتمنى لكم شهية طيبة سكسو داري ما يختى داري Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
Retrouvez Ramadan & Co tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan & Co vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.